Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Allez, c'est parti, soyez les bienvenus sur Séance Radio pour cet épisode 15 de Fin de Séance, votre podcast ciné qui débriefe autour d'un verre les films à l'affiche. Nous sommes, comme chaque semaine, de retour au Hurling Pub pour une émission très spéciale, les copains, puisque c'est la dernière de la saison.
Attention.
Oh là là, c'est vite arrivé.
Du coup, elle va être exceptionnelle.
Ouais, on l'espère, hein, on l'espère. On va se pencher, justement, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétro. On s'est dit que pour cette dernière, on allait revenir sur quelques films dont on n'a pas eu l'occasion de parler au cours de cette année. Avant de nous pencher dans la seconde partie, des grosses sorties de l'été, et plus particulièrement des Indestructibles 2 de ce cher Brad Bird qui revient 14 ans après le premier film, n'est-ce pas, Pierre Delors de fanfootage.fr que j'accueille. Mon ami, comment vas-tu?
Eh bien écoute, ça va très bien mon cher Thomas. Effectivement, je suis ton ami, il faut le rappeler. Parce que des fois, je sens qu'il y a une tension entre nous deux, depuis notamment ce podcast sur Avengers, et ça me fait de la peine.
Et pas que Avengers, sur Hérédité aussi.
Effectivement, ouais.
Ouais, t'as la mémoire courte. Ilan et Ferry et Julien Munoz sont des nôtres également. Salut les amis, ça va?
Salut.
Thomas, ça va?
Bah, très bien, très bien. Vous êtes prêts?
Tout à fait prêts.
Bon, les bières sont déjà descendues. Waouh! Ok, très bien. Ça veut dire qu'il faut tout de suite y aller maintenant. On ne perd pas de temps. C'est parti.
Bon, cette mission, c'est quoi?
Et on attaque tout de suite. On rentre dans le vif du sujet avec Battleship Island, film de guerre réalisé par Ryun Sung-wan. J'espère que je prononce bien son nom et son prénom. Sud-coréen, réalisateur sud-coréen. Alors le film était très 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 mal distribué en France, une seule salle sur Paris, et pourtant, quelle claque, n'est-ce pas Julien?
Ah ouais, quelle claque, ouais. Donc Ryun Sung-wan, c'est un réalisateur pas très connu par rapport au Bong Joon-ho, Park Chan-wook, par chez nous, mais c'est un réalisateur assez intéressant qui a fait vraiment des films pas mal, comme The Agent, qui était sorti directement en vidéo. Enfin d'ailleurs, tous ses films sont sortis qu'en vidéo. C'est le mec qui a fait City of Violence, The Injuste, un polar à la Sidney Lumet qui était vachement bien, mm-hmm. et complètement passé inaperçu. Et là, c'est vraiment un film que, bon, il sort en salle dans une salle à
une
Paris
salle.
Qui a tourné aussi en province quand même.
Ouais,
parce que apparemment le film a fait un mini buzz.
Ouais, il y a eu une mobilisation sur les réseaux sociaux quand même.
Donc film de prison qui finit en film de guerre.
Ouais.
Hein, on peut même c'est pas vraiment un spoil. Hein.
Est-ce que tu peux juste nous pitcher en deux
Donc
trois
c'est
phrases...
soi-disant tiré d'une histoire vraie d'une île en fait qui sert de une mine qui était transformée en prison par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et qui faisait venir les Coréens qui soi-disant travailleurs libres et qui étaient là pour les exploiter comme tout bon envahisseur nippon de l'époque.
Ouais, évidemment. Ouais.
Et voilà, on a un film de prison qui une espèce de la grande évasion, mais qui finirait comme le il faut sauver le soldat Ryan, quoi.
Ouais. Moi, je pensais même d'ailleurs à Tu ne tueras point de Mel Gibson.
Il y a pour un peu la violence débridée, ouais. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots.
Ouais.
Et c'est un film que j'ai vraiment apprécié parce que bon, c'est un film qui peut paraître caricatural, c'est un film de propagande. Hein. Faut bien l'avouer, c'est un film anti-japonais. Les Japonais sont très méchants, vraiment vraiment méchants. Mmh. Mais c'est un film vraiment à l'ancienne, comme le cinéma hollywoodien de la grande époque. C'est vraiment le style de film qu'Hollywood ne veut plus faire aujourd'hui. Et moi, c'est le genre de film que j'ai envie de voir sur un grand écran. C'est un film avec des énormes décors construits en dur, avec des plans de foule,
ouais, des grands panneaux, ouais.
Sans CGI, sans effets spéciaux. Spéciaux, avec de l'action, mais épique. Le mec, quand même, te reprend une musique à un moment d'Ennio Morricone. Tu dis, putain, normalement, tu dirais un mauvais réalisateur, t'as pas le droit de faire ça.
Dans
tu
le climax,
peux,
ouais.
Tu peux pas faire ça. Et là, il reprend une musique, je veux pas dire laquelle, mais qui est vraiment, tu peux pas la dissocier d'Ennio Morricone. Et pourtant, il arrive à la mettre et c'est un bonheur
total. On peut le dire, c'est la musique du bon, la brute et le truc.
Oui, l'extasie Delors dans la scène du cimetière, il met ça dans une scène épique, c'est dément quoi.
Et puis c'est un film qui passe par plein de tonalités en plus. Il y a de l'humour, il y a des gags visuels qui sont assez drôles. Hein.
C'est les Coréens, ils mélangent tout, un peu tout et son contraire, et pourtant ça marche. Mais je peux même citer la scène de la mine où il y a un accident de mine jamais vu ça.
En ouverture.
C'est dans le premier tiers du film.
En noir et blanc ?
Non, pas en noir et blanc, quand il y a une explosion dans la mine.
Plus tard, d'accord, ouais.
Mais j'ai jamais vu ça, même dans un film américain, quoi. Et donc là, vraiment, encore une fois, le cinéma coréen, chapeau bas, quoi.
Pierre, tu veux dire un truc sur le film, parce qu'on l'a vu ensemble ?
Oui, on l'a vu ensemble, on a été tous les deux hyper impressionnés, ça nous a mis une vraie claque. C'était vraiment un film à pas louper au cinéma, malheureusement la plupart des gens n'ont pas pu le voir, mais il est disponible en Blu-ray.
Ça y est, il est déjà sorti là ?
S'il l'est pas maintenant, il va l'être. Je pense que c'est pas ça qui arrête les gens.
Bref, tous des cousins.
Il faut vraiment le voir, c'est un spectacle absolument ahurissant. Alors c'est tiré d'un véritable fait historique, sauf que c'est très 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 romancé, au final c'est pas une retranscription fidèle de l'histoire. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Alors oui, il y a un côté propagande, mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le cinéma sud-coréen vis-à-vis du Japon. Ces deux pays qui sont pas complètement réconciliés. Les Japonais sont les méchants, mais je trouve que le film le dépasse. Et au final, ils sont présentés, en tout cas pour certains personnages, comme finalement humains. Des Coréens sont présentés aussi comme des ordures. Et je trouve que ce qui devient vraiment la menace, c'est le spectre du bombardement américain. Enfin, et c'est un film d'ailleurs qui s'adresse à Hollywood, je pense aussi en termes de spectacle. Et justement, en termes de spectacle, en termes d'action, en termes de décor, de figurants, c'est rare de voir ça. Et en Occident, on n'en fait quasiment plus des films comme ça. Donc il ne faut vraiment pas le louper. Croyez-moi, vous allez prendre une tarte dans la tronche. Ça vaut le coup.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec tous mes petits camarades sur ce film que j'ai découvert justement sur les conseils de Thomas et Pierre.
Oh, tu nous avais caché ça, dis donc.
Ouais, vous m'avez inspiré sur ce coup-là. Donc merci, grâce à vous, j'ai pu voir ce film dans l'unique salle parisienne où
c'est avec plaisir. Tu sais, si on peut forger ta cinéphilie, tu peux nous demander. Bah,
elle en a bien besoin, si tu veux. Je veux dire, moi, à part les Tuches 3 et Taxi 5,
et le doudou.
Il y a tout un horizon à élargir, si je puis dire. Non, ce que j'aurais voulu rajouter sur ce film, effectivement, c'est que c'est un vrai film de cinéma avec des parties prises de mise en scène qui sont culottées,
sont
des choses
fort,
qu'on n'a pas vues depuis longtemps et qui mettraient bien à l'amende pas mal de films hollywoodiens, parce que c'est un film qui remet en premier lieu la notion de spectacle. C'est un grand spectacle, c'est un film
épique,
comme Hollywood en faisait dans les années 50, 60. C'est la grande évasion, leur grande évasion à eux, mais avec toute la démesure qu'on peut leur connaître. Donc voilà, très grand film, et c'est dommage qu'il ne soit plus en salle, parce que c'est un film à découvrir en salle absolument, ou en tout cas sur un grand écran, mais à découvrir de toute façon.
Ouais, bah ça va pas tarder là, je pense qu'il va être dispo dans pas très longtemps en VOD, etc., etc. Bon bah voilà, Battleship Island. On va passer à Three Billboards aussi, qui a fait plutôt l'unanimité ici, n'est-ce pas, le nouveau film de Martin McDonagh, à qui on doit Seven Psychopaths entre autres et In Bruges, voilà, et qui a été, donc vous l'avez sans doute vu, salué aux derniers Oscars avec Frances McDormand, qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Est-ce que tu veux nous résumer, tu vas garder le micro,
tu gardes
le micro, tu vas résumer l'histoire.
Est-ce que je fais mon fille prisonnier comme Pierre, ou je le laisse tel quel?
Garde-le.
D'accord. Vas-y. Je garde. Oui, bah tu parles de Frances McDormand. Oui, alors on va pitcher le film rapidement. C'est l'histoire d'une mère de famille dont la fille a été violée et tuée, qui devant l'inaction des forces de l'ordre décide de marquer un grand coup en interpellant le shérif local à travers des messages sur trois grands panneaux publicitaires qui traversent l'axe principal menant vers leur petite ville. Alors a priori, quand on voit le pitch, on se dit que ça va être un film assez glauque, qu'on va pas passer un bon moment. Alors c'est pas un feel good movie, je le dis tout de suite.
Ah, pas du tout.
Mais c'est un film qui est extrêmement bien écrit, qui est très très précis dans son écriture et tout aussi juste dans sa manière de dépeindre les personnages. C'est quelque chose qui m'a interpellé dans ce film-là. C'est qu'il nous surprend justement dans sa peinture de ces personnages qui sont pas des archétypes, qui sont des personnages qui évoluent par strates, qu'on découvre, qu'on commence à découvrir, pour lesquels on peut ressentir même une certaine empathie, même les plus invraisemblables d'entre eux.
Sam Rockwell en tête.
Voilà, on peut ressentir une empathie pour eux. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est un film en fait qui m'a accueilli à plusieurs moments, aux moments les plus inattendus. Et c'est ça qui est très beau dans ce film, c'est l'inattendu. c'est un film qui est extrêmement empathique, extrêmement bienveillant envers ses personnages malgré son sujet extrêmement dur, et qui te dépeint une sorte de une facette de l'Amérique qu'on n'a pas l'habitude de voir, des familles américaines où on se dit je t'aime à coups de mandales dans la gueule et de cris stridents. Et Frances McDormand est juste absolument géniale dans ce film.
Alors, je suis content que tu aies mentionné Sam Rockwell, que j'adore, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui a un peu disparu, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Et j'ai été très heureux. Bah, de toute façon, Martin McDonagh le met dans tous ses films, quasiment. Enfin, tous ses films, non, il n'était pas dans Bon Baiser de Bruges, mais il était dans Seven Psychopaths. C'est un super acteur, il est très très fort, Sam Rockwell, il est très drôle. Il a un rôle qui n'est pas facile hein, dans Three Billboards, il joue un peu une espèce d'ordure. Et finalement, qui retrouve une humanité, ou en tout cas qui est filmé avec humanité par Martin McDonagh. Et je pense que c'est ça, au final, ce qu'il veut nous dire, c'est que, ok, c'est un portrait très sombre de l'Amérique, très dur, et d'ailleurs une Amérique rurale qui va très mal et qui est probablement oubliée de tous. Mais je pense que c'est là où il voit l'espoir malgré cette misère et cette noirceur. C'est au final dans les êtres humains, dans les gens qui vivent là et qui derrière cette apparente dureté ou cette apparente manque de... Parce qu'au final, c'est un petit peu... Au début, il est filmé un peu comme des péquenots, tu vois. Et puis finalement, il va trouver ce qu'il y a vraiment derrière ça. Et je pense que c'est là que réside le cœur du film. Et c'est un film qui a beaucoup de cœur. C'est un film qui est très généreux. Et surtout qui est très bien écrit. Et ça, c'est suffisamment rare aujourd'hui pour mériter d'être souligné.
Oui, c'est une humanité inattendue, en fait.
Non, je voulais juste, revenir sur ce que tu disais par rapport à Sam Rockwell, parce que on a pu entendre ici ou là ou lire des critiques concernant le personnage sur la rédemption, parce que on va quand même dire qu'au départ, c'est un gros enfoiré raciste, et ça posait beaucoup de problèmes à certains qui ont vu le film de voir ce personnage-là finalement avec que le spectateur ait une certaine empathie pour ce personnage-là, parce que sa trajectoire quand même est très particulière. Il est raciste au début, il est un tout petit peu moins sur la fin, et je sais pas si vous avez vu les mêmes critiques que moi, mais Sam Rockwell, il a pas non plus été super bien accueilli par tous, hein, quand même.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un film qui est...
Oui, Julien.
De la façon dont il a été présenté, en fait, on s'attendait à une espèce de film hollywoodien, enfin, un film indépendant qui remplissait un peu toutes les cases du film un peu bien pensant. Et alors je vais citer Yannick Dahan, c'est un film qui te la met à l'envers constamment, en fait.
Ouais.
C'est tu penses que ça va être un film qui va répondre à l'actualité de Ferguson, le problème racial aux États-Unis, et en fait c'est quelque chose de très secondaire dans le film, bien qu'il y a des films des flics racistes dans le film, mais c'est un film qui parle d'autre chose et qui va pas te ménager, il va toujours jouer sur tes a priori en tant que spectateur, et voilà, te la mettre à l'envers. C'est-à-dire, on a des coups de force, des retournements de situation qui sont pas des twists, tout ça, mais où émotionnellement tu es dans un état, tu dis tiens, je suis pour ce personnage parce que c'est le pitch qui me l'a dit, c'est comme ça,
ouais.
Et ce personnage, il déteste ce personnage, donc je vais le détester aussi. Et en un quart de seconde, on te retourne une situation, c'est affolant.
Ouais.
C'est vraiment, enfin, j'ai même presque envie de dire, c'est de l'ordre de l'inexplicable. C'est vraiment, on est dans un état émotionnel et tout d'un coup, sans l'avoir vu, on est totalement chamboulé. Tu parlais de familles qui se détestent, c'est même pas ça. Qui s'aiment avec violence. C'est qu'on a des familles, une famille qui se dit je t'aime et qui le quart de seconde se prennent à la gorge l'un et l'autre et se disent je vais te tuer. Et c'est comme ça trois fois dans une scène. C'est incroyable. Et en tant que spectateur, on est ravagé émotionnellement. C'est un film ravageur. On perd prise en fait sur tout ce qu'on pensait croire de ce film. Et on est amené sur un autre terrain, sur quelque chose qui bouscule nos idéaux, nos a priori, en termes de spectateurs, mais aussi en termes de société, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment, moi, c'est un film qui...
Toi, tu fais pas partie de ceux qui ont été dérangés d'avoir une empathie pour le personnage de Sam Rockwell.
Mais c'est ça la force du cinéma, c'est de se mettre à la place d'ordure et d'avoir la possibilité peut-être de se mettre à leur place, d'essayer de les comprendre sans forcément les pardonner. Mais voilà, c'est la force du cinéma en tant que tel, et j'ai aucun problème avec ça. Il est formidable, et ce film joue sur l'ambiguïté des personnages, sur l'ambiguïté ambiguïté morale, et c'est ce qui fait sa force et sa richesse. Et moi je suis prêt à, comme ça, à aimer des personnages aussi détestables qu'on me le présente de cette façon. Moi je
j'aime cette formule.
Voilà.
Ouais, vas-y Lan.
Oui, vas-y.
Un truc sur ce film qui pour moi a vraiment été un gros coup de cœur. J'ai adoré ce film pour toutes les raisons qu'on a évoquées, qu'a très justement évoqué Julien, parce que c'est un film aussi sur l'inattendu et qui est d'une humanité inattendue vu le sujet, et qui passe par des spectres assez incroyables, des personnages. On parlait de strates de strates chez les personnages dans Battleship Island, là c'est la même chose dans un autre contexte. Et en parlant de personnages, on a beaucoup parlé de Sam Rockwell et aussi de Frances McDormand qui est génial. On a très peu parlé aussi de Woody Harrelson.
Exact, ouais. C'est vrai.
Très très bon, et qui a un personnage génial, quoi, et qui cristallise à lui seul, je pense, tout ce mélange d'émotions et d'ambiguïté qui peut faire l'être humain, et qui cristallise tout ça, parce que Free Billboards, avant tout, c'est un film sur l'humanité.
Bon, oui, Julien, vas-y, dernier mot.
C'est un détail qu'on parle jamais, ce film, c'est la mise en scène.
Oui.
Mais il y a une mise en scène.
Oui.
Elle est sobre, elle est épurée, mais il y a vraiment des parties pris de mise en scène qui sont vraiment très justes et tout. Et c'est pas juste un film bien écrit, bien joué. C'est vraiment un film qui est au top à tous les niveaux.
Ben, on va rappeler que Martin McDonagh vient du théâtre, hein, je crois, hein, et effectivement, pour en revenir à la mise en scène, il y a notamment un très bon plan séquence. Three Billboards, je crois que c'est disponible d'ailleurs en Blu-ray, ouais. D'accord. On passe à Pentagon Papers, de ce bon Steven Spielberg, et qui pour moi je peux déjà le dire, sans doute à la première ou la deuxième place de mon top pour cette année, même si on n'est qu'en juin, parce que là franchement j'ai pris une claque en termes de mise en scène, d'émotion. Le découpage est incroyable, mais ça c'est un détail technique, mais la performance de Meryl Streep est juste hallucinante, et voir Steven Spielberg s'attaquer au drame thriller journalistique, un genre qu'il n'avait pas abordé jusqu'alors, eh ben moi je trouve que ce film-là est remarquable, et qui a été malheureusement, je trouve, aussi un peu snobé par une partie du public qui est un peu désenchanté par Spielberg ces dernières années, qui fait des films historiques que certains considèrent un peu poussiéreux. Mais vraiment, moi je sais que je l'ai conseillé autour de moi, et à chaque fois on m'a dit ouais effectivement t'avais raison, c'était quand même balèze. Hein, Pierre?
Ben, surtout que Steven, tonton Steven, c'est le patron, hein,
c'est le boss, hein.
C'est lui le boss.
Cette année, quand même, il nous a fait deux films, hein, Ready Player One et Pentagon Papers, qu'il a trouvé le temps de tourner pendant la post-prod de Ready Player One. Quand même.
Il a tourné les deux, et donc on a eu les deux sorties au printemps. C'est quand même fou. On a deux Spielberg la même année à quelques mois d'intervalle. Surtout ce qui, voilà, comme tu disais, c'est un film qui a été un petit peu snobé, comme elle avait été Le Pont des Espions.
Exact.
Avec aussi Tom Hanks.
C'est vrai.
C'est des films qui sont d'emblée considérés par soit une partie du public, soit une partie de la critique, comme des Spielberg mineurs. Qui seront effectivement, comme tu le disais, soi-disant un peu poussiéreux, etc. Alors qu'en fait, Le Pont des Espions, c'était une leçon de mise en scène et de suspense, et un thriller d'espionnage mortel avec un scénario des frères Cohen. Pentagon Papers, donc The Post, en version originale, c'est non seulement, encore une fois, une leçon de cinéma, une leçon de suspense, de mise en scène. Spielberg, c'est un réalisateur qui, dans ce film, va filmer. Dans ce film, va mettre en scène ce qui pourrait apparaître comme quelque chose de tout à fait inoffensif, voire un peu chiant chez un autre réalisateur, une simple séquence dans laquelle les personnages sont autour d'un téléphone et attendent un coup de fil, et en fait t'as l'impression d'être devant une véritable scène d'action. D'ailleurs c'est filmé comme une scène d'action, c'est dément. On oublie souvent ça quand on parle de ce film, je trouve. C'est un véritable manifeste de voilà ce que c'est que la mise en scène. C'est un film qui devrait être étudié dans les écoles de cinéma. Les acteurs sont absolument remarquables. La musique de John Williams fonctionne du tonnerre. L'ambiance, la reconstitution historique, mais fonctionne à 1000%. Enfin, je veux dire, qui est capable de faire ça aujourd'hui? Ils sont pas 36 000 sur la planète. Donc, si vous l'avez pas vu, c'est pour ça qu'on voulait un peu en parler. Nous, ça a été une véritable claque. Si vous l'avez pas vu, si vous aviez peut-être des a priori sur le film, ça vaut le coup de le voir, il faut absolument le découvrir. Et si vous avez eu la chance de le voir, et surtout si vous avez eu la chance de le voir au cinéma, revoyez-le avec cet angle de la mise en scène, du suspense et de la maestria de ce réalisateur qui est en pleine possession de ses moyens. Donc voilà, Pentagon Papers, recommandé à 2000%.
Mais ce qui est fou, c'est que la mise en scène de ce film est absolument prodigieuse et que certains arrivent à parler de académisme hollywoodien, quoi. C'est aberrant. Alors que même ceux qui ont apprécié le film se sont focalisés sur le côté film anti-Trump, film féministe. C'est vrai, c'est totalement. C'est un film historique qui répond à notre époque, qui est d'une actualité brûlante, même si ce film parle d'une autre époque, mais c'est un pur film de cinéma, quoi. Et traiter ce film de académique, mais c'est ne rien comprendre à ce qui est l'essence même du cinéma. Je suis désolé, hein, mais franchement, il faut retourner à l'école, hein, quand on traite un film comme ça d'académique. Pour moi, c'est on sait pas du tout ce que c'est le cinéma.
Ou faut voir plus de films,
de bons films, je pense. Hein.
Moi, j'arrête pas d'être d'accord avec Julien.
Mais qu'est-ce qui se passe? L'alcool?
Ça doit être l'alcool. Je pense que c'est ça, on va mettre sur le dos de l'alcool.
Il y a un truc.
Oui,
là.
Je sais pas quoi rajouter à tout ce que vous avez dit, parce que vous avez très bien analysé le film. Pour moi, c'est une très belle conclusion à la trilogie qu'avait faite Spielberg sur le pouvoir de la rhétorique, qui avait commencé avec Lincoln, avec le pont des espions, à savoir qu'il filme, on pourrait dire, voilà, on va caricaturer, il filme des gens en train de parler, mais il y a tellement plein de choses qui passent là-dedans sur, on va plutôt dire même le pouvoir du discours plutôt que le pouvoir de la rhétorique. Mais j'ai trouvé ça très très puissant, très puissant parce qu'il voulait dire, parce qu'il l'achevait de dire. Et que dire de plus que au-delà, il faut aller au-delà effectivement des a priori qu'on peut avoir sur un sujet qui peut paraître académique en soi. Il faut se dire que par le passé, là, Spielberg est en train de tenir un miroir pas du tout déformant, justement, un vrai miroir de notre société actuelle, en tout cas de l'Amérique actuelle. Que rien que pour ça, il est très important de voir ce film.
Voilà. Et voilà. Tout est dit. Pentagon Papers est actuellement disponible en VOD et je vous invite vraiment à vous procurer le Blu-ray parce que le making-of est génialissime et à vous plonger aussi dans la BO de John Williams qui est remarquable, sublime. Voilà, donc Battleship Island, Three Billboards, Pentagon Papers, trois films qui nous ont plutôt marqués en ce début d'année. Et maintenant, je vous propose, les amis, qu'on se tourne vers les sorties, vers ce qui nous attend cet été. Oui, parce que juillet-août, effectivement, cette fameuse période estivale propice aux blockbusters, il se multiplie chaque jour un blockbuster en chasse un autre. Et on va commencer avec le 27 juin. Le 27 juin, puisque nous avons trois films à l'affiche, les amis, et quel film ? Budapest, de Xavier Krantz, Tully et Sicario 2. Et je crois qu'Ilan a vu Tully, de Jason Reitman.
Tout à fait.
Alors, est-ce que c'est aussi chiant que son précédent Young Adult avec Charlize Theron ? Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, s'il te plaît ?
Spoiler alert, c'est mieux qu'Young Adult.
Ah, bonne nouvelle.
Je vous pitch en deux mots. Tully, c'est l'histoire d'une mère de famille qui a deux enfants, qui en attend un troisième. Elle est enceinte jusqu'aux yeux. Elle est totalement débordée. Elle en peut plus. Elle dort plus. Elle n'a plus de vie. Et jusqu'à ce que un jour son grand frère Bobo, qui mange des feuilles de quinoa avec des japonaises, lui propose les services d'une nounou de nuit qui proposera de s'occuper de son bébé histoire qu'elle dorme. Donc c'est à ce moment-là qu'elle fait la connaissance donc de cette fameuse nounou qui s'appelle Tully et qui sera un véritable
qui est donc
ouragan.
Incarnée par Charlize Theron. Hein.
Alors Charlize Theron n'est pas la nounou de nuit. Charlize Theron est la maman. Et la
D'accord.
fameuse Tully
okay,
est incarnée par cette charmante, comment elle s'appelle, cette actrice, Mac, qui dont le nom de famille se termine par Mackenzie, qui a joué dans Blade Runner.
Attends, bah je sais pas du tout.
Qui a joué dans Blade Runner 2049.
Ah, oui.
Mackenzie Davis. D'accord. Donc c'était pas le nom, c'était le prénom. Voilà. C'est
alors,
pas grave, tout se passe bien.
C'est bien ou pas?
Eh bien écoute, c'est bien, c'est le film qui m'a réconcilié avec Jason Reitman et qui m'a aussi réconcilié avec Diablo Cody. Parce que moi, non, j'ai pas aimé Juno. J'ai pas non plus aimé, j'ai bien aimé Young Adult, mais sans plus. Et là, on a une comédie, un feel-good movie qui dépeint ses personnages sans jugement, comme avait pu le faire les précédents films de Jason Reitman, qui étaient très moralisateurs,
ouais,
assez puritains, même dans leurs propos. Là, on a quelque chose de très ancré. Dans la réalité, de très empathique pour ces personnages, souvent drôles, souvent assez pittoresques dans la situation qu'ils montrent. Et c'est drôle, c'est bien comme film. C'est un film qui te dit que oui, c'est bien d'avoir des enfants, mais qu'est-ce que ça peut être, l'enfer aussi. Ça peut être un véritable cauchemar, mais Mais voilà, on a aussi besoin, en tant que couple, en tant que mère, en tant que père, de se retrouver hors des enfants et de se reconnecter avec cette jeunesse perdue. Et je trouve que c'est un beau film. C'est un bon feel-good movie pour l'été.
Alors, je vais poser une question bête.
Il n'y a pas de question bête.
Est-ce que Jason Reitman, c'est le fils de Ivan Reitman?
Oui.
Ok, d'accord.
Voilà.
Donc, question c'est marrant. Suivante. Il fait des films beaucoup plus, conventionnels et puritains que son père, alors.
Tout à fait, ouais.
Ok, intéressant.
Est-ce que tu lui prédis un bel avenir à ce film quand même? Parce que c'est pas simple. Hein. Budapest en face avec Jonathan Cohen et Sicario 2.
Face à Budapest, tu veux dire face au Very Bad Trip français et à la suite de Sicario, ça va être plutôt difficile de rivaliser face à Sicario, mais le film peut plaire aux familles, peut avoir ce petit effet, comme j'ai dit, feel good movie, totalement inattendu. Donc pourquoi pas. En tout cas, il était bien reçu par le public, oui, lorsque j'ai vu en avant-première.
Avec Jason Reitman.
Avec Jason Reitman, et il a été très bien reçu par le public. Je vais pas dire qu'il y a eu une standing ovation, mais les gens étaient très réceptifs au film, particulièrement même les mères de famille qui ont dit, mais c'est un peu ma vie que vous avez mis sur l'écran. Merci beaucoup, merci. Donc, on peut dire que oui, okay. Jason Reitman en soi est un réalisateur féministe, peut-être un peu plus que Pascal Laugier.
Voilà, voilà, ok, ça c'est dit. Prends ça dans ta tronche, Pascal. Semaine suivante, Les Indestructibles, 4 juillet. Et là, attention les amis, puisque c'est un très très gros morceau qui vous attend au cinéma. 14 ans après le premier film, ce cher Brad Bird qui revient de loin, puisque son dernier fait d'armes est Tomorrowland, qui a été gentiment snobé au cinéma. Et pourtant, quel film. Et à qui on doit également Mission Impossible 5-4, voilà, Protocole Fantôme. Revient donc nous conter la suite des aventures de la famille Parr, qui reprend juste après la fin du premier film. Pierre et moi avons eu la chance de le voir, et même Pierre, alors là attention, monsieur va se la raconter, monsieur Pierre a eu la chance de rencontrer Brad Bird, carrément quoi. La classe.
C'est comme ça que je me suis présenté. J'ai dit que j'étais Monsieur Pierre.
Monsieur Pierre.
Et on avait vraiment envie de parler de ce film parce que c'était une grosse claque. Ouais. C'était formidable. Enfin, Les Indestructibles. Déjà en 2004, hein, le premier Les Indestructibles, c'était quand même fou. Je me rappelle, j'ai vu au cinéma. J'avais trouvé ça absolument démentiel. Et là, cette suite qui arrive en 2018, c'est quand même dingue. Ouais. Surtout que c'était je vais pas spoiler, mais en gros, ça se passe 24 heures après le premier. Hein, ça emboîte le pas de la fin du premier directement. Donc on retrouve cette scène je raconte pas, vous allez retrouver, et limite replongez-vous un peu dans le premier, ça va vous rappeler des bons souvenirs.
Ça a pas pris une ride.
Quand on a pu rencontrer Brad Bird, il y avait une question qui on avait tous sur les lèvres, aux lèvres, c'était qu'est-ce que vous avez vu dans cette famille, enfin qu'est-ce qui vous a donné envie de retourner voir ce film, de retourner faire ce film, cette suite, qu'est-ce que vous aviez envie de dire sur cette famille, parce que effectivement c'est une critique qu'on a pu entendre sur le 2, c'est que c'est très similaire par rapport au premier, dans sa construction, dans son déroulement, dans certaines thématiques. Oui, il y avait des choses qu'il abordait. Il y a eu une deuxième question. C'était avec cette foule de films de super-héros qui sortent aujourd'hui, est-ce que vous aviez est-ce qu'il y avait encore une fraîcheur dans votre esprit, dans votre traitement, pour à nouveau montrer des super-héros sur grand écran? Il a avoué que des gros studios, notamment Marvel, étaient venus le chercher pour réaliser des gros blockbusters de leur franchise, et que lui, il n'avait pas eu envie, il avait envie de faire ses propres super-héros.
Tiens donc.
Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il avait ses propres super-héros, il avait ses personnages qu'il aime beaucoup, cette famille sur laquelle il avait des choses à dire. On a presque l'impression qu'il abordait le film comme un épisode 2 d'une série, tu vois. On retourne dans cette famille juste après, dans leur quotidien, et le film est d'ailleurs beaucoup sur les petits troubles du quotidien, la garde des enfants, le rôle du père, de la mère, le chômage, etc. Et en même temps, il y a cette invention, cette énergie, cette générosité, il y a une musique, la musique de Michael Giacchino, elle fonctionne du tonnerre de Dieu, c'est formidable. C'est un film qui est tellement généreux que, si tu veux, jusque dans les dernières secondes du générique, t'as une invention, t'as de l'image, t'as des bonus.
Et qu'est-ce que c'est drôle?
C'est hyper drôle.
Qu'est-ce que c'est drôle, Jack, vraiment, vous allez vous mettre par terre.
Ah bah, il y a une scène avec un raton laveur est à mourir de rire. Et une scène qu'ils avaient écrite pour le premier. Et ils savaient pas tellement comment la caser. Et du coup, ils l'ont mise dans cette suite et elle fonctionne très très bien. Et surtout, à l'heure où il y a beaucoup de super-héros aujourd'hui au cinéma, il y a des scènes d'action qui mettent en scène des super-héros, leurs super-pouvoirs, des destructions de bâtiments, etc. Et voilà comment on fait des scènes de super-héros, voilà comment on fait des scènes d'action aujourd'hui en 2018. C'est ça le vrai cinéma de super-héros. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que les meilleurs films de super-héros de l'année, c'est des films d'animation.
Voilà.
C'est Batman Ninja, c'est Les Indestructibles 2, et c'est peut-être le Spider-Man qui sortira chez Sony en décembre.
Ouais. Oui.
Vas-y, je t'en prie.
J'allais rebondir effectivement quand on sort de cette purge qui est Avengers Infinity War et voir.
Attention à ce que tu dis.
et voir effectivement cette proposition de cinéma, mais extrêmement cinématographique, aussi bien dans la direction artistique que dans le découpage, la mise en scène. Vraiment. J'ai pas grand chose à rajouter en fait.
Avec un ennemi qui est très contemporain. Qui parle de thématiques tout à fait dans l'actualité, notamment les réseaux sociaux, etc. Peut-être qu'effectivement, j'ai entendu dire qu'il allait pas au bout de son concept avec ça, mais je trouve que c'est pas très dérangeant finalement, parce que le propos du film est pas réellement là. Et si vous voulez passer un excellent moment, voir des scènes d'action exceptionnelles et vous marrer dans la joie et la bonne humeur avec un film extrêmement généreux, faut aller voir Les Indestructibles.
C'est un vrai moment de cinéma pour le coup, du bon cinoche. Voilà, tu lis Les Indestructibles 2, donc on a pu en parler puisque nous les avons vus. Maintenant, on va se pencher sur un peu ce qui nous attend. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous autour de cette table qui attendent beaucoup Skyscraper avec ce bon Dwayne Johnson.
Moi j'ai envie d'aller le voir. Rampage avec The Rock, Dwayne Johnson, ça m'avait bien fait marrer et j'espère que Skyscraper, ça va être un petit peu dans cette veine du film Pizza Bière.
Je sais que Ilan et Julien ont très hâte aussi de découvrir ce film, n'est-ce pas ?
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Non, parce que franchement, je vois la bande-annonce.
Toi qui adore Die Hard ?
J'adore Die Hard, mais parce que j'adore Die Hard, merde. Franchement, chaque image, ça a l'air d'être une torture, c'est d'une mocheté abyssale, quoi. Non, enfin, on verra ce que c'est, mais franchement, j'ai pas envie de voir ça.
Ilan ?
Fallait bien que ça arrive, là je suis pas d'accord avec Julien. Moi j'ai hâte de voir Skyscraper, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'affection pour Dwayne Johnson et je trouve que c'est un putain d'action hero. Déjà j'avais bien aimé Rampage qui, bon, en soi, cassait pas trois pattes à un orang-outan, mais t'es sympathique, donc
fameuse expression française.
Voilà. Voilà, donc pourquoi pas The Rock avec Dwayne Johnson avec une jambe bionique, pas bionique, et dans un gratte-ciel. Why not?
Le concept est énorme. Alors, il y a Ant-Man 2 aussi, les amis. Est-ce que Ant-Man 2, ça vous intéresse ou pas?
Alors je vais mimer
Pierre.
Le vent.
Ok, très bien. Julien?
Moi, je mime Pierre.
Julien, vas-y, parle dans le micro.
Moi je mime Pierre.
D'accord, Ilan?
Alors moi c'est con parce que le jour de la sortie, enfin pendant tout le premier mois de la sortie, j'ai de la lessive à faire, donc je pourrais pas voir le film.
Ok, moi aussi je crois que j'ai piscine ce jour-là. Le 25 juillet, Une pluie sans fin, film sud-coréen.
Chinois. Chinois, de film de Dong Yu. Donc un film qui a fait un petit buzz à Cannes. Qui a une très bonne réputation, film de tueur en série, enfin de track de tueur en série.
Et au festival de Beaune aussi, je crois.
Ouais, aussi, il faudrait vérifier, mais
je crois.
Le genre, le thriller comme ça de film de tueur en série réussit plutôt bien au cinéma asiatique depuis quand même pas mal d'années, même si tous les grands films sont venus de Corée du Sud. Donc là, moi, je suis vraiment intéressé pour savoir en quoi ce film se démarque des autres et quelles sont ses qualités, quoi.
Ok, le 1er août, les amis, attention, là, il y a un grosse battle à l'affiche, puisque nous avons Mission Impossible 6 et Winnie l'ourson en face de Mark Forster pour Disney.
Alors, Mission Impossible, bon, Winnie l'ourson, voilà. Mission Impossible Fallout,
oui.
Qu'on est très curieux de voir parce qu'il a été tourné en partie à Paris.
Christopher McQuarrie, on s'est rendu sur le tournage d'ailleurs.
Mine de rien, ça va faire quand même quelque chose de voir au cinéma des scènes d'action dans les rues de Paris. Je me rappelle du tournage avec Tom Cruise qui fonce en moto, en bagnole. Il y a sur un bateau, sur la scène aussi, des hélicoptères du GIGN. Enfin, à mon avis, ça va dépoter pas mal. Moi, j'avais beaucoup aimé le dernier, Rogue Nation. Je l'ai trouvé très fun. C'était un super film d'espionnage avec de l'action. De toute façon, je suis très fan de la série Mission Impossible.
Et qui passait juste après Spectre. Donc, du coup, juste qui relevait un peu le niveau du genre.
Voilà, ouais,
parce que Spectre, hein, il est aussi fantomatique que son titre. Et voilà, je suis en forme.
Ouais, t'es en forme.
Et du coup, Mission Impossible, on a grave envie de le voir.
Ouais,
et
carrément.
Et puis Tom Cruise, on l'aime bien.
Et alors, pour le coup, moi, je connais une personne qui a travaillé sur le film et je crois que l'ouverture va sans doute nous scotcher parce qu'a priori, il y a une. Bon, vous l'avez sans doute vu sur la bande-annonce ou dans les featurettes. Il est question d'un saut en parachute et je crois que c'est la scène d'ouverture pour se terminer sur le Grand Palais, sur le toit du Grand Palais avec une scène incroyable dans le Grand Palais justement pour donner l'impulsion de tout plein de scènes d'action dans Paris.
Et mine de rien, pour montrer un petit peu la France, Paris, les monuments mis en scène au cinéma dans des scènes d'action un peu explosives, bah, il faut que ce soit des étrangers qui le fassent parce que chez nous, c'est le désert.
Alors, j'ai autre chose à vous proposer juste derrière. Détective D.
Ah.
De Tsui Hark.
Alors Tsui Hark, c'est moi j'aime bien Détective D. Je crois qu'autour de la table on est plusieurs à pas mal aimer. Thomas, on va aller le voir ensemble à la Projet Oppresso. Tu n'en as
j'en ai vu aucun.
Alors moi j'aime bien les Détective D. Bon, déjà Tsui Hark, super réalisateur. Détective D, c'est une franchise très populaire en Chine, donc c'est le troisième film. Ça se passe donc c'est la Chine impériale. Historiquement, je me souviens plus de la date exacte. Et donc en fait le fameux Détective D, c'est un espèce de détective du paranormal. Il est appelé par le pouvoir impérial pour enquêter sur des phénomène étrange qui se passe. Alors dans le premier film, c'était Andy Lau qui est un super acteur chinois. Détective D2, c'est un préquel et donc c'est Mark Chao, je crois que c'est ça son nom, qui joue le jeune détective. Et le 3, c'est la suite de cette préquelle. Donc on retourne avec un jeune détective et cette fois voilà, quel va être le mystère encore. La bande-annonce c'est un petit peu spécial hein, si vous allez voir le film. Il y a des effets spéciaux qui nous paraissent des fois un petit peu cheapos, ça paraît de temps en temps un petit peu délirant, un petit peu grand guignolesque. Mais c'est ça aussi qui fait la force de ce film. C'est complètement débridé. T'as des effets de caméra Tsui-Hark qui s'en donnent à cœur joie. C'est plein d'action, de couleurs, ça vaut vraiment le coup de le voir au cinéma.
Plein d'idées de mise en scène aussi, hein, des idées complètement folles. Bah d'ailleurs Thomas, si tu veux, j'ai les deux premiers en Blu-ray, hein, si tu veux attaquer avant la
prochaine. Volontiers, ouais, j'ai le temps, hein, ça sort quand? Ça sort le 8 août, oui, donc j'ai un peu de marge.
Je t'emmène ça.
Ok. Derrière, on a le. Alors là, bon, c'est moins sexy. Equalizer 2 avec donc ce bon Denzel Washington. Le monde est à toi de Romain Gavras, Papillon. Le remake du film culte avec Steve McQueen et Dustin Hoffman.
Sans commentaire.
Allez, on passe au 22 août avec En eau trouble. Et là voilà, donnez le micro à Ilan parce que je crois qu'il a des choses à dire là-dessus.
Ouais, bah moi, on me dit requin, on me dit Jason Statham, forcément, je dis banco. Le concept me paraît assez fun. Moi, je trouve que dès qu'on oppose des grosses bébêtes à des gros bras, il y a un gros potentiel. Et j'ai dit plusieurs fois gros.
Et il y a eu un gros buzz aussi.
Et il y a un gros buzz, donc
suite à la bande annonce.
Je sais qu'apparemment le film est tiré d'un bouquin. Donc qu'est-ce que ça va donner? Je parlerai aux intéressés qui ont lu le bouquin.
Donc faut lire le roman avant, en fait.
Ouais, faut lire parce que ça a l'air d'être un truc très intellectuel. Je pense qu'il y a pas mal de subtilités.
Moi, je regrette que le film ne s'appelle pas Les Dents de Statham.
Mais tu sais, ce sera peut-être la traduction française à un moment. Hein.
Bien joué. Ok.
Alors là, Pierre a tué le game. Je ne sais plus quoi.
Bah écoute, t'as très envie de le voir. On a tous très envie de le voir dans tous les cas. Si, oui, Julien, vas-y.
Non, bah je voulais parler de la sortie du 29 août, 22 mai, de Peter Berg. Qui est.
À toi direct en fait. Donc bah, tu passes le Spike Lee.
Ah ouais, merde, excusez-moi.
Black Landsman quand même.
Bon, on fait une aparté, je finis sur le Peter Berg et puis je laisserai.
Ok, vas-y. On terminera par Spike Lee.
Non, bah moi j'aime beaucoup ce que fait Peter Berg, qui est un cinéaste plutôt moqué par une certaine frange de la critique, je trouve.
Track à Boston, son dernier film.
Ouais, Track à Boston était vachement bien, Du sang et des larmes était un super film de guerre.
Ah ouais, ouais.
Et Deep Water Horizon était quand même vraiment pas mal comme film. Et là, c'est bon, il retourne au film d'action pur et dur avec Mark Wahlberg, l'acteur de The Raid, Iko Uwais, je crois.
Oui, exact. Oui.
Shonda Rousey, je crois qu'elle s'appelle. Et enfin, j'ai vu la bande annonce. Ça a l'air de bastonner à mort. Et,
toi,
moi, j'aime bien. C'est mon petit cœur de bourrin.
Ouais, okay.
Palpiter là.
Ok, très bien. Bon, et on va revenir donc sur le 22 août. Black Landsman de Spike Lee qui a été présenté à Cannes avec un accueil critique un peu tiède. Alors bon, on attend de voir ça, non ? Est-ce que ça vous intéresse, ouais, Ilan ?
Écoute, moi, oui, ça m'intéresse, parce que Spike Lee, il m'avait un peu perdu depuis quelques temps, et puis on le voyait plus, ses films soit passaient en VOD, soit étaient carrément oubliés, et là, avec Black Kongsman, j'ai l'impression qu'on est de retour avec le Spike Lee du Do the Right Thing, le Spike Lee un peu méchant, un peu taquin, donc j'attends un mix, effectivement, entre ses premiers films, et pourquoi pas un petit côté Inside Man, donc why not ?
Très bien, c'est le 22 août. Oui, Pierre, vas-y.
Et alors moi, j'ajoute un film que je croyais que c'était pas sur ta liste. C'est aussi le 29 août ou le 19. Alors j'ai un doute, mais il me semblait que c'était le 29 août. C'est Burning, qui est un thriller coréen, sud-coréen, qui a l'air absolument dément. La bande-annonce, je vous invite à aller la voir sur YouTube. Elle est vraiment hyper puissante. Et faut pas trop en dire. Ça a l'air extrêmement noir, extrêmement mystérieux, avec un espèce de trafic avec une jeune femme. Ça va parler des relations. Il y aura des disparitions, des meurtres, etc. Ça a l'air très très bien.
Très bien. Alors donc, vas-y, redis le titre.
Burning.
Burning. Très bien. Pour récapituler, on conseille Tully. Ilan vous conseille Tully. Les Indestructibles 2, bon ça c'est indispensable, ouais. Effectivement, Mission Impossible 6. Ilan vous recommande également Winnie et Détective D, effectivement, voilà, en eau trouble le 22 août, Détective D le 8 août.
Peut-être aller jeter un coup d'œil à Sicario 2, voir ce que ça donne.
Ouais, mine de rien quand même, hein. Quand même, hein. C'est réalisé par Stefano Solima, qui a conçu, qui s'est penché sur la série Gomorrah et qui a réalisé Suburra également. Plutôt bon réalisateur. Donc allez-y, voilà. Fin de séance, épisode 15, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur séanceradio.fr, SoundCloud et toutes les autres applis podcast pour nous écouter, nous réécouter sans modération tout l'été, parce que oui, c'était le dernier numéro.
Oh,
mais on va revenir très vite, les amis.
Ouais.
Oui, quand même. Retrouvez-nous donc sur SoundCloud. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker, laisser des étoiles.
Ouais, envoyez-nous de la thune. On va partir en vacances.
On va mettre une petite cagnotte sur internet. On va mettre le petit lien, tu sais, en bas du podcast. Pierre, on te retrouve sur fanfootage.fr.
Ben oui, maintenant que je peux plus dire mon avis à l'oral, je vais être obligé d'écrire des trucs.
Ça c'est relou, ça. Hein.
Ah là là.
Ça c'est chiant d'écrire. Hein. C'est terminé.
Je pensais que j'étais passé à un autre stade dans la hiérarchie.
Non mais écrire, c'est saut de mille, quoi.
Ouais, laisse tomber.
@fanfootage.fr également sur Twitter. Ilan et Julien, les amis, on vous retrouve très vite, notamment sur les réseaux sociaux, sur
le Cinevibe FR sur Twitter, dans laquelle on écrira toujours avec autant de mauvaise foi.
Très bien. Et Julien également, vous pourrez lire ses magnifiques papiers.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un truc de prévu d'ailleurs prochainement ? Est-ce que tu es sur une critique ?
Ah, je sais pas. Hein. Il y aura surprise. Hein.
D'accord, ok, très bien. Bon, on vous souhaite de très très bonnes vacances. On vous dit à très vite, les amis. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger nos précédents numéros pour nous écouter dire de grosses bêtises. On aime ça. On aime dire des grosses bêtises.
Voilà, et on fait des big bisous comme Carlos.
Et big bisous, voilà. Big bisous. Allez, ciao.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.